Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Il est 20h pile, merci d'être avec nous sur BFM Business en ce mardi soir. Vous avez fait le bon choix, vous êtes dans Tech & Co, la quotidienne, comme chaque soir. Vous le savez, on passe un bon moment ensemble, 20h, 21h30, 90 minutes de tech à la radio, à la télé. Et les replays, les podcasts qui vous attendent juste après la diffusion de cette émission. Avec au sommaire en ce mardi soir, eh bien on va évidemment revenir sur cette annonce étonnante entre Sam Altman et Jonathan Ive, l'ex-designer d'Apple. Il sera en train de développer un appareil dédié à l'IA. Il cherche beaucoup d'argent. On va débriefer tout ça dans un instant. On ira aussi à Las Vegas où se déroule en ce moment le Google Cloud Next édition 2024. Toutes les annonces cloud et IA de Google passées au crible avec Clément David qui sera en direct avec nous depuis là-bas. Et puis, innovation française très importante, une IRM surpuissante conçue par le CEA et on recevra la directrice de recherche du CEA qui a travaillé sur ce projet. Elle sera avec nous sur le plateau de Tech & Co aux alentours des 21h15. On parlera quantique aussi ce soir. Bref, que de bonnes choses. Merci d'être là. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, le débrief de l'actu tech, pour débuter de 20h à 21h avec nos experts. Et ce soir, sur le plateau, Frédéric Simotel, bien sûr, vous le savez, fidèle au poste. Comme chaque soir, bonsoir Fred, journaliste à BFM Business. Et en face de Frédéric, nous avons ce soir Didier Sens. Salut Didier.
Hello.
Journaliste spécialisé dans la tech depuis quelques années, on va dire. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, Didier.
Non.
C'est pas la peine. Et à tes côtés, Michel Lévy, Provençal, nous fait l'amitié d'être là. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris. Prochain rendez-vous en juin prochain.
11 juin.
C'est déjà un carton au Grand Rex.
Oui, c'est sold out.
Voilà, on en reparlera. Okay. Parce que c'est vraiment un rendez-vous important. Après 5 ans d'absence due entre autres au Covid, voilà, le TEDx à Paris revient. Et tu es aussi fondateur de l'agence Brightness. Voilà pour les présentations. Alors on l'a dit, beaucoup de sujets encore une fois ce soir. Bien sûr, on va parler de Google tout à l'heure à partir de 20h30 avec Clément David. Vous le savez, Clément David, c'est le patron de Paddock qui vient souvent débriefer l'actu tech. Il est avec nous à Las Vegas. Il sera avec nous en visio pour nous raconter un petit peu l'ambiance de ce grand rendez-vous cloud organisé par Google et puis un petit peu les tendances, hein, parce qu'il y a pas mal de partenaires français hein, qui se sont raccrochés à tout cela. Orange, notamment, c'est intéressant, on en parlera bien évidemment. Et puis plein d'autres sujets très intéressants, comme par exemple OpenAI et Google qui se sont amusés à aspirer YouTube, en quelque sorte, hein, pour nourrir leur intelligence artificielle générative. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que ça pose des problèmes de droit d'auteur, etc.? On évoquera tout ça dans un instant. Mais pour débuter, l'actu tech de ce jour, c'est une association, alors qui traîne depuis un moment, hein, Fred, on en avait parlé dans Tech & Co, je crois que c'était il y a plusieurs semaines, association entre Jonathan Ive. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Jonathan Ive, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est, on va dire, avec Steve Jobs et quelques autres, l'un des piliers d'Apple de la grande époque.
C'est le designer, hein, voilà.
Voilà, le designer d'Apple. L'iPhone, c'est lui. L'Apple Watch, c'est lui. Enfin, voilà, c'est une, une star du design. Hein,
les Mac.
Jonathan Ive, les Mac. Il est parti, on ne sait pas trop pourquoi, il y a quelques années d'Apple, parce que peut-être que divergences de design.
Il est d'origine britannique, donc il voulait passer plus de temps
Royaume-Uni.
Après, peut-être qu'il y avait une histoire avec Steve Jobs qui n'existait plus avec Tim Cook. Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons.
Exactement, et puis bon, voilà, il a décidé de monter sa propre agence de design.
Oui, c'est l'artisan de la renaissance d'Apple. Hein. C'est grâce à lui, dans les années 90, avec l'iMac, avec l'iPhone après.
Les iMac colorés.
Le G-Mac, là, au début.
Qui a eu des produits qui faisaient envie, des produits Apple qui faisaient envie, avec un design absolument exceptionnel. Donc, c'est, comme tu disais, c'est pas n'importe qui. Quoi.
Voilà, et puis c'était surtout le duo Steve Jobs-Jonathan Ive. Hein. À l'époque, les keynotes les plus célèbres, on les voyait tous les deux qui évoluaient, etc.
Passionné de voiture et qui fait fait reparler de lui au moment où justement Apple est sorti de...
C'est ça, exactement. Exactement. Et il avait dû sans doute travailler à ce projet, puisque ce projet d'Apple Car était là depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que Jonathan Ive discute avec Sam Altman depuis pas mal de temps. Sam Altman, le patron d'OpenAI, au sujet d'un objet. Alors au début, c'était, on parlait d'un iPhone dédié à l'IA, un smartphone dédié à l'IA. Aujourd'hui, c'est un objet parce que cette information revient, cette rumeur revient. Ils cherchent de l'argent pour développer une espèce de, comment dirais-je, de vitrine technologique d'OpenAI.
Un assistant personnel.
Un assistant personnel, c'est ça.
C'est plutôt ça ce qui apparemment ressort de... des rumeurs, parce que finalement rien n'est officiel, mais ça serait un objet qui ne serait pas un smartphone, mais qui serait quand même un objet numérique basé sur l'intelligence artificielle d'OpenAI.
Alors évidemment, pourquoi on en parle ? Parce qu'ils cherchent de l'argent, et quand on cherche de l'argent, d'ailleurs, en général ça se sait. Ils cherchent un milliard, je crois, sur ce sujet.
On n'en sait pas beaucoup sur ce projet. Il est possible que ce soit peut-être un nouveau device, un peu comme Humane, l'AI Pin de Humane, ou bien le Rabbit Air One, qui est une invention qui remplacerait le mobile.
Le Humane dans lequel Sam Altman a investi, d'ailleurs.
Dans lequel, oui, il y a du GPT-4, d'ailleurs, dans Humane. Et alors, ce n'est pas la première boîte dans laquelle il s'associe, parce que Johnny Ive et Altman sont déjà associés dans WorldCoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce device qui scanne l'iris pour permettre d'ailleurs d'évaluer si on est face à un vrai humain ou si on est face peut-être demain à un robot ou un humanoïde. Et donc ils sont déjà associés sur ce device-là qui a aussi une crypto-monnaie.
Ça me fait tellement penser à Blade Runner.
C'est exactement ça.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui moi m'a complètement traumatisé à l'époque, tout début des années 80. Et pour détecter si c'est un humain ou un androïde, parce qu'à l'époque, les androïdes étaient tellement parfaits qu'il fallait, en fait, leur poser des questions, je crois, et regarder leur pupille, l'iris.
C'est là où il y a la femme robot qui pleure à un moment.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est incroyable, et c'est rigolo que WorldCoin soit un peu ça, finalement.
Oui, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée, c'est effectivement de vérifier un certain nombre de marqueurs biométriques pour s'assurer qu'on est face à une personne vivante, et à un humain, en l'occurrence. Et donc, ils ont investi. C'est quand même très visionnaire, parce que probablement que derrière cette idée-là, l'objectif, c'est de pouvoir bien séparer le monde des robots de demain, le monde des intelligences artificielles, avec la production de contenu qui va être possible, avec tous les avatars qu'on va pouvoir créer, et le monde des humains. C'est un peu ça l'idée de WorldCoin.
Alors, c'est marrant que tu parles. Je t'interromps, pardon, François. Vas-y. C'est marrant que tu parles de robots parce que je me dis, tiens, il y a une semaine, on nous dit une rumeur. Margoman, qui est l'un des journalistes bien, enfin de chez Bloomberg, qui est souvent bien informé qui je sais pas, il a l'adresse où Apple met ses poubelles, donc il sait où aller fouiller exactement. Et bref, il nous parlait de Apple qui était en train peut-être de réfléchir à un robot. Et je me dis, tiens, est-ce que finalement, tout ça, c'est pas une stratégie d'Apple la semaine dernière de dire tiens, je sais qu'ils sont, on va annoncer qu'ils sont en train de chercher de l'argent peut-être pour faire un robot. Ben nous, on va couper un peu l'herbe sous le pied en disant nous Apple, on est aussi en train de chercher à faire un robot. Enfin, je sais pas, parce que tellement d'annonces autour de tout ça. Mais dès le départ, on avait parlé effectivement à smartphone. Non, on y croyait très peu parce qu'on se dit quand même le smartphone existe déjà. Il y a quand même pas mal d'acteurs. Il y a les Chinois en plus qui sont là
impossible aujourd'hui de lancer un nouvel écosystème retomber sur Android.
Ou alors c'est racheter un ancien un Motorola qui traîne, tout ça, enfin un ancien constructeur.
Pas un milliard,
mais non, moi je me dis, il y a plein de choses. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai discuté avec un ancien dirigeant de d'Essilor, et Essilor, ils sont en train de travailler sur tout un tas de choses. Évidemment, ils travaillent sur les tout ce qui est vu, ils travaillent tout ce qui est aussi écoute, enfin amélioration de l'écoute, et je me dis, tiens, pourquoi ils ne s'allieraient pas non plus à des gens comme ça?
Bien sûr. Ont un partenariat avec Meta, d'ailleurs, sur les glasses.
Exactement.
Les Meta glasses. Et d'ailleurs, Meta compte introduire de l'IA dans les lunettes Meta qui sont, entre autres, distribuées par Essilor. Mais Essilor est un très bon exemple.
Et je sais que Essilor, qui est valorisé quand même 100 milliards aujourd'hui, c'est quand même une très, très, très belle entreprise. Alors, Essilor Luxottica, qui est italienne, le management est italien. Mais en tout cas, ils sont très, très forts sur les. C'est eux qui ont sorti les premiers verbes. Enfin, déjà sur l'optique, ils sont très forts. Et puis, justement, après, on met des montures, on réduit tout. Ben voilà, on n'a plus besoin d'AirPods, on entend mieux.
Donc pour toi, tu irais plutôt vers une paire de lunettes.
Je me dis, tiens, ça pourrait être. Après, il y a des industriels dans ce domaine. Il leur manque parfois un peu plus d'intérêt. Ils ont toute la technologie de miniaturisation du son, donc pour une meilleure audition. Ils ont de vue, évidemment, ils connaissent tout ça. Et je me dis, bah tiens, si on met de l'IA autour de tout ça pour discuter avec ces lunettes, pour peut-être mieux contrôler. Enfin voilà, je me tourne, j'ai la. Les Google Glass de l'époque.
Petite question à tous, à nos deux personnes qui ne portent pas de lunettes, Didier et Fred. Est-ce que vous seriez prêt à porter une paire de lunettes si vous aviez, on va dire, une valeur ajoutée à cette paire de lunettes, à savoir de l'intelligence artificielle?
Alors, tu veux m'obliger à faire un aveu?
Moi aussi.
Je porte des lunettes.
Ah oui.
Et là, j'ai des lentilles.
D'accord, ok.
Donc, ça ne me dérangerait pas d'avoir des lunettes avec des informations.
Mais tu pourrais abandonner tes lentilles pour porter des lunettes qui te donneraient, par exemple.
Ça marche mieux que les Google Glass, oui. celle que j'avais essayé il y a quelques années, qui était un vrai cauchemar. Oui, ça peut être intéressant pour retrouver son chemin dans la rue, pour avoir des informations complémentaires sur ce qu'on voit, pour avoir vraiment...
Tu es devant un monument, toc, on te donne les infos
c'est ça, ou même,
que tu peux avoir en audio.
Il y a même des expériences très intéressantes en reconstitution en 3D, par exemple, des ruines antiques, etc. Ça, les gamins, ils adorent, parce que quand ils arrivent devant des vestiges, c'est très difficile d'imaginer. Là, tu mets les lunettes et tu vois s'élever le temple, les arènes, etc. Donc, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant, est-ce qu'une boîte comme OpenAI a des compétences dans ce domaine-là? Pour l'instant, c'est assez limité. Il faut voir demain ce qui va se passer.
Oui, mais Ray-Ban Meta fait un peu déjà ça. Je ne sais pas si vous les avez testées, mais elles sont extrêmement légères. On dirait une paire de Ray-Ban traditionnelles. Vous avez
ça fait lunettes de soleil. Hein.
Alors, on peut changer les verres pour avoir des verres neutres. Pour l'instant, il n'y a pas d'IA dedans. Mais Meta est en train de travailler pour rajouter de l'IA. Il y a un truc très très simple, on peut commander à la voix, mais il n'y a pas véritablement d'IA.
Et pour compléter ce que tu dis, parce que j'ai lu en fait une note de blog d'un des ingénieurs de Meta qui dit que ces lunettes qui sont disponibles depuis quelques mois, c'est la deuxième version,
la deuxième génération,
qui permettent d'écouter des podcasts parce que vous avez des petits haut-parleurs. Elles ont des caméras qui vous permettent de filmer ou prendre des photos depuis votre smartphone, etc. Et bien là, les fonctionnalités qui vont être ajoutées, c'est, par exemple, je suis en train de regarder Fred et je lui dis qui j'ai en face de moi. Et là, la caméra va analyser Frédéric, envoyer l'information dans le cloud, récupérer une image qui va ressembler à toi et dire c'est Frédéric Simotel. Ouais. Et ça va être avec n'importe quoi, avec une assiette, quelque chose que vous êtes en train de manger, un monument, un panneau, etc. C'est la traduction. Donc,
il
n'y aura pas d'information de réalité augmentée, c'est-à-dire vous n'avez rien qui va s'afficher. C'est la voix. Et le retour vocal, en tout cas, de l'intelligence artificielle qui apportera quelque chose.
C'est déjà le cas. Moi, j'en ai une paire.
Intéressant.
La deuxième version, j'en ai une paire. Et en vacances, c'est très utile pour prendre des photos, filmer, écouter de la musique, écouter des podcasts.
Et donc, il y aura une mise à jour d'ici la fin de l'année qui te rajoutera toutes ces fonctionnalités. Voilà.
Mais tu vois, c'est pour ça. Alors, je pense que ce qui nous perturbe un peu, c'est qu'il y ait Johnny Ive, comme on dit, qui est un designer.
Ça veut dire que ça va être un bel objet.
Tout ça. Donc on se dit, on part plutôt dans l'objet. Parce que sinon, l'association, moi je me dis, mais pourquoi il ne travaillerait pas avec des constructeurs auto, avec des constructeurs, on parle décideurs, des constructeurs. Et de dire, nous on a un concept, alors vous construisez des petits pins ou des petites caméras, on va vous aider à mieux les designer. Vous construisez des lunettes, nous on va vous aider à mieux les designer. Parce que Johnny Ive, c'est le designer évidemment du dessin, tout ça, mais aussi à l'intérieur, quoi, de l'architecture, pour essayer de miniaturiser, enfin de faire les circuits les plus miniatures possibles et tout ça. Mais un petit peu quand même. Mais c'est pour ça que moi, l'association avec Johnny Ive me perturbe un peu, parce que je dis, qu'est-ce qu'elle pourrait inventer? Parce que sinon, il suffit de se. Même avec des vêtements, quoi. On va aller voir des fabricants de vêtements.
De toute façon, on rentre probablement dans l'ère de l'incarnation de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va commencer à pénétrer dans tous les objets de la maison, du quotidien, peut-être des lunettes, des vêtements, etc. Et c'est intéressant de voir tous les acteurs de tous les secteurs, alors évidemment de la tech, OpenAI, Mais peut-être Apple, bien évidemment, mais peut-être aussi Google. Est-ce que Google va aller... Ils ont commencé à le faire au travers de leurs enceintes. Est-ce qu'ils vont aller encore plus loin et proposer peut-être des objets Google connectés, comme à un moment donné, ils avaient du Nest, comme à un moment donné, ils avaient de la caméra, ils ont toujours d'ailleurs. Et cette capacité d'avoir, au même titre qu'on a eu de l'Internet, de la connexion dans les objets, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va arriver dans les objets.
Ça peut être une belle enceinte, Didier. Une belle enceinte connectée à ChatGPT. Ça n'existe pas aujourd'hui, finalement.
On peut aussi, avec des hacks, tu peux arriver à faire des...
Ouais, mais il faut hacker, ouais. Tu vois, enfin, c'est pas naturel. Et là, si tu rajoutes en plus un petit bonus, tu vois, tu entraînes ton large language model pour qu'il soit encore plus performant avec une enceinte connectée, par exemple, bien designée par Jonathan Ive, ça peut avoir du sens.
Moi, ce qui me perturbe, ouais, c'est cette levée de fonds. Pourquoi ils ont besoin d'un milliard?
J'allais dire exactement la même chose, ouais.
Évidemment, Fred soulevait une question qui est, est-ce que c'est finalement c'est pas leur intelligence qui va leur permettre de créer un studio, un peu de développement, qui va permettre à des gens... Non, je crois qu'ils ont vraiment l'ambition d'avoir un objet, de créer une boîte. C'est intéressant d'ailleurs de voir les gens qu'ils ont approchés. Il y a SoftBank. SoftBank, c'est quand même le numéro un japonais de la robotique. C'est ceux qui ont racheté Boston Dynamics, Aldebaran et compagnie. Et puis c'est ceux qui ont, dans leur portefeuille, ils ont ARM. ARM, c'est quand même le concepteur légendaire des architectures processeurs actuelles. C'est eux qui sont à l'origine notamment du M1 d'Apple et d'autres choses comme ça. Donc il y a une... Le rapprochement avec SoftBank laisse penser qu'on va vers un objet. Moi, c'est pour ça que je parlais d'assistant personnel numérique, de quelque chose qui serait peut-être dans la lignée effectivement du Rabbit.
Mais ça peut pas être un smartphone, ça n'aurait aucun sens. Non, il faut aussi que ce soit un objet complètement radicalement différent d'un smartphone, parce que un smartphone aujourd'hui, via une appli, on peut lui mettre toute l'intelligence artificielle qu'on veut. Il y a ChatGPT sur n'importe quel smartphone. On voit que le Galaxy S24 qui vient de sortir et qui cartonne d'ailleurs en vente. Eh bien voilà, ils ont rajouté une couche d'intelligence artificielle. Donc il faut sortir un autre objet.
Ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de brevet. D'habitude, ce genre d'initiative, il y a des fuites au niveau des dépôts de brevets, etc.
Là, il n'y a rien.
Il n'est pas impossible qu'ils aillent sur le champ de la robotique, hein, comme tu le disais. Ouais, peut-être que la robotique, forcément humanoïde, voire robotique humanoïde.
Wow.
Ce serait un vrai pari sur l'avenir, parce que je vous rappelle que Elon Musk a quand même annoncé qu'il y aurait en 2040 2 milliards de robots humanoïdes sur la planète. Donc cette vision, encore une fois,
et son fameux Optimus, en plus, j'imagine.
C'est la vision. C'est à chaque fois les annonces.
On l'a vu hier au Rise IA, il était à Paris.
Oui, tu l'as pris en photo. Ouais. Ouais, il est impressionnant.
Mais c'est possible, hein, que ce soit.
Ce qui donnerait un argument supplémentaire au rapprochement avec SoftBank. Ouais.
Oui. Non, mais moi je pense que c'est les deux pistes, hein, la piste robotique. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure, pour l'anecdote, l'histoire d'Apple qui dit on va sortir un robot. Je m'y tiens comme par hasard. Une semaine avant, ils essaient un peu de en termes d'annonces, tout ça. Et puis le fait qu'il y ait Johnny Ive, c'est ça qui me perturbe. Parce qu'au départ, j'étais. Mais après, rien n'empêche à ce qu'ils aient une sorte de studio et qu'ils proposent à des fabricants de voitures, de lunettes, tout ce qu'on veut. Mais je suis comme toi, je relève, toi, le milliard. Je me dis un milliard quand même, pourquoi pas 100 millions, quoi. Enfin, un milliard, c'est qu'ils ont... Alors, c'est sûr que les ingénieurs coûtent très cher, que Johnny Ive, il en a emmené quelques-uns, alors qu'il bosse un peu pour OpenAI aujourd'hui. Mais bon, un milliard,
si tu veux créer un nouvel objet from scratch que tu vas pouvoir produire en quantité pour après le vendre, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de trésor. Hein. Et le hardware, ça coûte très très cher.
Et puis autre chose, faut commencer à passer tes commandes auprès des fabricants de processeurs. Tu vas pas arriver au mois de septembre en disant voilà, j'aurais besoin de ça. Alors il faudrait qu'ils sortent au mois d'avril 2025. Les gens vont dire attendez, nous, nos carnets de commandes, les usines elles sont en train d'être construites. Revenez en 2027 quand on repart. Enfin, j'imagine qu'il y a ça aussi. Oui, enfin, tu vois, faut trouver aussi le. Alors peut-être que ce milliard va servir à créer déjà l'usine qui va. Mais il y a ça aussi.
Non, mais s'ils ont SoftBank avec eux, ils auront sans doute le privilège d'ARM. Ouais.
Bon, on verra bien. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à fuiter. Hein. Apple n'arrive pas à garder de secret. Comment OpenAI et Jonathan Ive pourraient y arriver ? comme tu le dis, un jour ou l'autre, ils seront obligés de commencer à commander des composants, et là, on aura peut-être des fuites.
Ce qui est
intéressant, hein, c'est excitant ce sujet. On dit dans quelle direction peuvent-ils aller.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la deuxième personne qu'ils ont contactée est une intime de Jonathan Ive, parce que c'est la veuve de Steve Jobs.
Waouh.
Qui a créé un fonds d'investissement. Donc c'est intéressant.
Elle n'est pas un peu dans le côté frugal et tout ça, donc y a pas ça.
Elle est plutôt baba cool, oui.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ben comme l'était Steve d'ailleurs.
Ce qu'il a perdu d'ailleurs.
Et de toute façon, comme doivent l'être les technologies aujourd'hui, parce que si tu arrives avec un processeur qui consomme 2 000 litres d'eau à la seconde et qui brûle 10 arbres, c'est très bon. Quoi.
Bon, écoutez, voilà, on reste sur notre faim, mais on peut imaginer, rêver à quoi pourra ressembler cet appareil. On en saura peut-être plus bientôt. Tiens, toujours du côté d'OpenAI. Vous savez que, évidemment, pour avoir ce résultat de plus en plus époustouflant de ChatGPT, bien sûr, il faut que ChatGPT s'entraîne. Et il y a cette information qui n'est pas passée inaperçue. Visiblement, OpenAI, mais aussi Google, c'est ça qui est intéressant, aurait aspirer en quelque sorte les données de certaines vidéos de YouTubeurs pour alimenter leur large language model, parce que vous le savez, hein, toutes ces intelligences artificielles sont obligées de se nourrir soit d'images, soit de vidéos, soit de pomper carrément des sites entiers pour améliorer leurs statistiques. Et là, visiblement, YouTube aurait été aspiré. Enfin, pas toutes les vidéos. J'espère quelques-unes des vidéos de Tech & Co quand même, ça me ferait plaisir, mais bon.
Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs,
c'est... Il faut que tu demandes un copyright, du coup.
Il faut que je demande un copyright.
C'est tout le problème. Ils ont travaillé à d'abord partir des vidéos, transformer ces vidéos en texte pour pouvoir récupérer la donnée. Ouais. Donc, ils ont utilisé un des algorithmes qui s'appelle Whisper, qui fait de la transcription.
Et c'est impressionnant, d'ailleurs.
Dans les deux sens, d'ailleurs.
Ouais.
Et qui est très impressionnant. Et donc, ils ont scrappé, récupéré des millions de vidéos. Mais ce qui est aussi très étonnant, c'est
Un million d'heures, dit l'article.
C'est pas une nouvelle, hein. C'est-à-dire que c'est une vieille affaire, puisque dès 2021 ou fin 2021, début 2022, des universités et un projet en particulier, vous allez rigoler parce que le nom du projet, j'ai retrouvé ça aujourd'hui, s'appelle Merlot Réserve, donc rien à voir avec le vin, mais ce projet a déployé des scripts qui permettent de faire exactement ça, et c'est en open source, donc on peut aller sur internet
récupérer. Donc ça prend la vidéo,
ça la retranscrit, et derrière ils ont alimenté des modèles, donc à l'époque basés sur GPT-3 ou GPT-3.5, je crois que c'était GPT-3, pour pouvoir enrichir. Donc il n'est pas impossible que, puisque toutes ces universités, ces chercheurs coopèrent aussi beaucoup dans les équipes de OpenAI et de Google, ils aient utilisé Merlot Réserve dans le cadre de leurs travaux pour récupérer de la data issue de YouTube. Ce qui pose un vrai problème, quand même.
Bien sûr, et on revient à notre sujet d'hier, hein, sur ces stars de la chanson américaine qui ne sont pas contentes de voir pomper en fait toute leur musique après recracher par l'IA d'une manière ou d'une autre. On est à peu près là, dans le même sujet.
Sauf que là, Google... Il y a deux aspects. Il y a Google et...
OpenAI.
OpenAI. Google dit qu'il n'utilise les vidéos que des créateurs qui sont d'accord pour qu'on exploite leur contenu. Bon, à vérifier, mais au moins ils ont ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Google a déjà... vous vous rappelez, l'an dernier, ils avaient changé les conditions d'utilisation, enfin la licence de Google Maps, pour qu'ils puissent importer les critiques des restaurants que rédigent les gens pour alimenter l'intelligence artificielle.
Wow.
Donc c'est un peu le même genre. Ils ont besoin de plus en plus de données dans tous sens. Ils vont chercher Wikipédia, les livres en libre accès, tout ça, ça leur suffit pas. Donc plus ils ont de contenu, mieux c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que OpenAI le fait aussi. Le journaliste qui a interviewé les gens de Google leur a dit vous laissez faire les autres, on n'est pas au courant, etc. Et en fait il est question que Google soit parfaitement au courant de l'initiative d'OpenAI, mais qu'il les laissait faire pour des raisons
Oui, de...
D'accord,
bien
puis
sûr.
Que, et puis qu'eux font un peu la même chose, alors oui. qu'il y a des, des vidéos YouTube qui sont protégées, tout ça. Mais c'est là où je trouve où il y a beaucoup de zones d'ombre juridiques, parce qu'il y a la règle, alors, je ne saurais pas bien la traduire, c'est le fair use là, aux États-Unis, ouais. c'est-à-dire qu'on peut utiliser des vidéos, enfin des documents protégés, sous réserve qu'ils viennent alimenter quelque chose qu'on veut illustrer. À l'ambiance. Ouais. C'est déjà pour. Voilà, je traduis ça en langage français, mais en langage de droit américain. Chaque mot doit compter. Et je pense que les avocats savent très bien tourner ça à leur avantage. Et c'est tout ça qui est un peu complexe. Et on sait qu'aujourd'hui, YouTube avait interdit l'accès à des robots, des scrappers, enfin, tout ce genre de choses. Bon, visiblement, ils ont réussi à contourner ça. Donc, ils l'ont fait. Entre guillemets, légalement, enfin, ils ont dû contourner le texte, le droit d'accès. C'est pas illégal, mais c'est pas légal non plus. Enfin, tu vois, c'est toute cette zone d'ombre juridique sur lesquelles autant Google que OpenAI se sont entraînés. Qui est-ce qui peut râler? C'est tous ceux qui ont des vidéos YouTube avec qui théoriquement ont signé avec le refus d'inclusion ou en disant voilà, c'est du copyright. Voilà, on les a pas encore beaucoup entendus là. On entend les musiciens hier, on en a parlé, mais pour autre chose. C'est assez étrange. Alors, c'est le New York Times qui ressort tout ça, mais je trouve que voilà, on
Google,
est
Google. C'est un peu des gens du Far West. Hein. Vous vous rappelez l'histoire des Google Cars qui se baladaient partout et qui numérisaient toutes les rues et les maisons et les bâtiments publics, alors que c'est totalement interdit. Enfin, je veux dire, il faudrait demander l'autorisation.
Et quand tu remontes encore plus dans le temps, rappelle-toi les visages qui étaient sur Google Maps. Ils ont été après obligés de les flouter. Oui. Ça avait créé des scandales.
Mais je continue. Mais leur moteur de recherche, c'est ce qu'ils ont fait aussi.
Et je continue avec les fameux Google Books, c'est-à-dire ils ont numérisé des quantités de livres jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui disent mais attendez, c'est des livres
qui sont sous. Ils sont pas libres de droit.
Ils sont pas libres de droit. Et oups,
ouais, voilà. Bien sûr.
La théorie de Google, c'est mieux vaut demander pardon que demander l'autorisation.
Ouais, c'est clair.
Pas que Google d'ailleurs. Ouais. Beaucoup d'acteurs.
C'est intéressant hein, cette posture d'ailleurs intellectuelle. On voit que les géants de la tech ont souvent cette posture-là.
Ouais.
Parce que pour avancer vite, c'est un peu des bulldozers.
Les disrupteurs.
Et voilà.
C'est les disrupteurs.
Et parfois, ils mangent la ligne jaune, on va dire.
Ouais, hein là, ils l'ont franchi allègrement, parce que de la part de OpenAI, c'est du vol manifeste quand même, hein, de contenu. Et c'est pas le seul contenu. Hein. On va avoir toute une série quand même de procès qui vont arriver. On a eu Shutterstock. On va avoir toute une série de procès qui vont pas forcément se régler par des amendes, mais qui vont se régler par des deals. Ils vont se mettre d'accord. Il va y avoir des gros chèques derrière. Et puis tout ça va finir par trouver un équilibre. La jurisprudence va arriver, mais on est encore dans la phase du Far West.
Ouais. Bon, écoutez, il est bientôt 20h30, on revient dans un instant, l'info écho, et puis après, gros bloc Google, parce que c'est quand même le Google Day aujourd'hui, hein, à Las Vegas. Hein. Je crois que ça dure plusieurs jours d'ailleurs.
Ouais, c'est trois jours. Google.
Grosse conférence sur le cloud.
Google Cloud, hein. Google voilà. Cloud Day, hein. c'est ça. Pas juste Google.
Le cloud et l'IA d'ailleurs, ouais. hein, avec beaucoup d'annonces qui sont faites. On va en parler avec Étienne Brack qui va nous parler de l'aspect financier de Google et d'Alphabet, qui suite à cet événement, est super valorisé, tout se porte bien pour Alphabet. Et puis après, on retrouvera Clément David, qui sera avec nous en visio depuis Las Vegas pour nous donner un petit peu l'ambiance et puis les premières annonces qui ont été faites lors de ce Google Cloud Next, je crois que ça s'appelle.
Oui, voilà. Google Cloud Next.
Allez, on revient juste après l'info écho, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et c'est Étienne Brack qui nous a rejoint sur ce plateau. Salut Étienne.
Bonsoir François.
Ravi de t'accueillir Étienne. Avec une journée importante pour Alphabet, la maison mère de Google bien sûr, qui a tenu sa grande conférence Cloud Next à Las Vegas. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec Clément David. Étienne, l'une des annonces majeures concerne le déploiement d'une nouvelle puce qui s'appelle Action.
Oui, et qui fonctionne sous ARM, hein, la technologie ARM de britannique. Hein, donc ça, c'est vraiment l'annonce majeure de cette conférence, puisque historiquement, ils fonctionnent plus sur l'architecture x86 de Intel. Alors, ils ont donné plein de chiffres, c'était plus puissant, ça consommait moins d'énergie, mais c'est surtout une façon de s'adapter un petit peu aux standards du marché, parce que quand vous regardez les géants du secteur, notamment dans le cloud, eh bien, vous avez Microsoft en novembre dernier qui a fait une annonce également en passant notamment sur ARM pour l'intelligence artificielle. Vous avez également d'autres acteurs comme Alibaba qui sont passés sous technologie ARM. Et puis, c'est aussi une façon pour le groupe d'avancer ses pions dans l'intelligence artificielle. Surtout que vous avez un gros retard de Google par rapport à l'univers du cloud. Selon Gartner, c'est seulement 7,5% de parts de marché en 2022. On n'a pas encore les chiffres de 2023, alors que vous avez plus de la moitié du gâteau qui est occupé par le mastodonte Amazon, avec notamment Microsoft. Donc c'est une façon aux clients d'offrir un petit peu un standard de marché, et puis aussi d'offrir une puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, et puis aussi pour sa propre intelligence artificielle Audi Mini, avec une nouvelle version bêta qui a été annoncée, 1.5 Pro. Alors il n'y a pas de grandes annonces par rapport à ce qu'on voit sur les standards actuels, mais surtout des avancées par rapport à la compréhension du son. Et en tout cas, ça plaît tout ça à la bourse aujourd'hui, puisque vous avez Alphabet qui est en hausse, quasiment sur des records historiques actuellement, à $158 l'action, alors que Wall Street est en baisse, plus 50% cette action Alphabet. Et surtout, vous avez une capitalisation boursière qui frôle les 2000 milliards de valorisation boursière, et ça permet à Alphabet de passer devant son grand rival Amazon en termes de capitalisation.
Les frères ennemis qui se battent à coups de milliards. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque pour cette analyse. Le débrief de l'ActuTech ce soir avec Didier Sens, Michel Lévy Provençal et Frédéric Simotel. Et Clément David qui est avec nous en visio depuis Las Vegas. Salut Clément.
Salut, comment ça va François?
Mais ça va très bien, ravi de te retrouver. D'habitude tu es à ma gauche, là tu es à quelques 10 000 km de nous, à Las Vegas.
Ouais, et je profite du soleil.
T'as bien raison, et tu es là-bas à l'occasion du Google Next 24, qui se déroule en ce moment, qui est le grand rendez-vous du cloud de Google. Bon déjà, petite ambiance, je vois du ciel bleu derrière toi, t'aurais dû te mettre une casquette, tu vas attraper un coup de soleil là.
Il fait très très beau, mais comme je passe ma journée au casino, c'est en sous-sol, donc je ne prends pas un gramme de soleil. Là, je veux rentrer dans deux minutes. Je veux gagner de l'argent pour l'assaut, un voyage à Dubaï pour Frédéric Simotel.
Ah, très bien, c'est bien. Vas-y, cotise parce qu'il coûte cher, il voyage en business, etc. Oui. etc. Juste, Clément, l'ambiance de ce grand rendez-vous, c'est évidemment de la démesure, j'imagine, à la fois
incroyable.
À l'analogie de Las Vegas et puis de Google qui met les petits plats dans les grands, non, pour cet événement.
Tu vois, par rapport à San Francisco de l'année dernière, tu sens qu'on est sur un truc. Tu vois, l'arrivée du CEO, là, Thomas, qui arrive sur scène, il y a un compte à rebours de 60 secondes, des ballons colorés qui changent et tout. Tu sens que Vegas, par rapport à San Francisco, c'est une ambiance qui est complètement différente.
Ouais, c'est clair, avec la sphère, on l'a vu, Fred. La sphère qui est juste derrière moi, vous savez, qui est cette nouvelle attraction à Las Vegas, cette salle de concert avec cet immense écran qui brille de tous ses feux à des kilomètres à la ronde à Las Vegas. Il est aux couleurs de Google, là, c'est quand même impressionnant. Tu l'as vu? Tu l'as vu la sphère ou pas?
Non, je l'ai pas vu. Moi, je suis arrivé hier soir. Donc pour l'instant, j'ai rien vu à part mon hôtel et la keynote de ce matin.
Alors justement, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter concernant cette keynote de ce matin?
Écoute, il y a trois trucs. Étienne en parlait. Gemini, c'est vraiment, tu vois, c'est leur plus gros modèle AI. Ce qui est important par rapport à Amazon, c'est qu'en fait, parce qu'on parlait de la lutte avec Amazon, en fait, il y a une double lutte. Tu as la lutte avec Amazon qui, pour l'instant, ne propose pas quelque chose de très clair. Et puis, tu as la lutte avec Microsoft qui, pour le coup, est très, très, très bien vue en ce moment parce qu'ils ont plein d'annonces tout le temps, OpenAI, etc. Sur Gemini, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, c'est le modèle va nous permettre en effet d'intégrer du son, de la vidéo, etc., etc. Mais en plus, il y a beaucoup d'annonces sur on va aider les développeurs à mieux coder. On va leur dire où sont les bugs, on va leur faire des suggestions, on va vous faire des suggestions de cybersécurité. En fait, le mot d'ordre, c'est industrialisation. C'est-à-dire que la keynote a commencé avec un petit tac, la ChatGPT, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est pas la version officielle, sur c'est bien de lui demander, de lui poser des questions compliquées à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va lui demander de faire des choses compliquées. Et donc, le mot d'ordre, c'est c'était marrant, ça fait 6 mois qu'on joue, on fait faire des photos rigolotes. Maintenant, comment est-ce que les entreprises explosent à travers l'IA? Et Gemini, ils sont en plein là-dedans et les annonces qu'ils ont faites sont quand même assez costauds.
On murmure qu'une version de Gemini pourrait être payante. Est-ce que c'est aussi dans on va dire, la rumeur qui traîne en ce moment à Las Vegas?
C'est pas un sujet qui est évoqué. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Là, pour l'instant, ils sont vraiment en mode. On vous explique à quel point l'outil qu'on a produit est le plus puissant sur le marché. Tu vois, par exemple, il y a eu un comparatif de tous les outils. Je ne vais pas les refaire. Ils ont dit, voilà, nous, Gemini, on est capable d'analyser en temps réel 1 million de données. Personne ne peut faire ça. On a vraiment l'outil le plus puissant. C'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui chez Google. Je pense que ça sera dans une deuxième phase si ça arrive.
Clément, autour de cette table, il y a Frédéric Simotel, je crois que tu l'as déjà croisé deux, trois fois, Didier Sens et Michel Lévy Provençal, et ils ont envie de te poser des questions, donc je leur laisse la parole.
Oui, salut. Allez. Clément. Ma question, tu parlais justement des développeurs, c'est que, alors ils vont appeler ça Gemini Cloud Assist. Est-ce que tu sens un peu la même envie de courir derrière le copilot, copilot bureautique, copilot GitHub, le copilot de Microsoft, et eux, maintenant, avec Gemini, ouais. C'est aller un peu. Ils ont un Gemini pour les bases de données, ils ont un Gemini cybersécurité, ils ont un Gemini Big Data, enfin BigQuery, je crois qu'ils l'appellent comme ça. Et ouais, étrangement, on est un peu dans le copilot BigQuery, copilot cybersécurité, copilot GitHub.
Ouais. En fait, on est sur la création d'un écosystème des deux côtés. C'est-à-dire que, tu vois, Microsoft, ils ont Office 365, Google, ils ont Google Workspace. Et l'idée, c'est qu'ils ont annoncé, par exemple, aujourd'hui, Google Bits, qui va permettre de générer des vidéos et facilement, et via l'IA générative, ça arrive en juin. Ils annoncent qu'en effet, ça va aider en cyber, ça va aider dans tous les outils. Tu as tous les outils que tu peux retrouver en ce moment dans les effets d'annonce Microsoft, Google a les mêmes, en fait. De dire, quand vous faites une vidéo, quand vous faites participer à une réunion, pardon, on vous refait le résumé de la réunion, on vous dit ce qui est important. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu proposes aux gens un écosystème qui te permet de dire des choses intelligentes à tes clients et en interne d'aller plus vite. Et en fait, les deux, ils arrivent à se propulser avec 365 et avec Workspace. Ils auraient tort de s'en priver parce que c'est une rampe de lancement incroyable.
Clément, Michel veut te poser une question.
Désolé, je plisse les yeux, mais c'est parce qu'il y a du soleil partout, on n'a plus l'habitude.
Mais parce que je croyais qu'on t'éblouissait, c'est pour ça, mais bon, ça c'est fini. Hein.
C'est Frédéric Simotel, encore et toujours.
Ouais, toujours.
Oui, une petite question par rapport au business model de Google. On parle beaucoup d'une bascule du search vers les modèles de chat conversationnels. Autrement dit, on va pouvoir demain non plus être sur un simple moteur de recherche, mais interroger un outil à base d'IA qui va pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il y a eu des annonces qui touchent à la fois l'interface, mais aussi peut-être le business model ? C'est-à-dire qu'on retire la publicité et on rend payant le service. Est-ce qu'il y a eu des annonces en la matière ?
Il y a eu des annonces, c'est pas cette stratégie-là, mais en fait, il y a des grosses annonces sur le côté comment est-ce qu'on tire parti du moteur de recherche pour l'IA. Et en fait, ils auraient tort de balancer ça à poubelle parce qu'ils ont quand même le meilleur moteur de recherche du monde. Et donc, en fait, une des grosses annonces, et c'est peut-être l'annonce qui a été la plus applaudie tout à l'heure, c'est le côté, maintenant, tout ce qu'on va faire avec l'IA, vous allez pouvoir utiliser la puissance de notre moteur de recherche pour poser vos questions, créer vos prompts, chercher à l'intérieur des différents modèles, etc. Donc, en fait, ils sont plutôt en train de dire, on a un asset que personne n'a, parce que pour le coup, Bing, côté Microsoft, n'est pas du tout au niveau, on le sait tous. Donc, en fait, on va plutôt essayer de merger les deux, de rassembler les deux pour faire des outils plus puissants que n'importe où ailleurs. Donc, ça n'a pas encore parlé business model, mais en revanche, ça a beaucoup parlé comment est-ce qu'on part de notre moteur de recherche pour tirer encore plus côté IA génératif.
Et ils ont donné des dates ?
Ils ont dit que, alors, Google Vidéo, ce sera en juin, et sinon, tout le reste est en preview, on n'a pas de date exacte, mais je pense que ça sera avant juin pour la partie recherche Google mixée à l'IA générative. Ils avaient l'air de dire que c'était très bientôt.
Didier.
Oui, moi, le problème qui se pose, c'est que Google, pour l'instant, la majorité de son chiffre d'affaires, c'est quand même la recherche Google. Or, ils veulent faire intervenir l'intelligence artificielle dedans, mais ils ont en face d'eux des concurrents sérieux, hein, Copilot, Arc et d'autres. Est-ce que du coup, et on parlait de business model tout à l'heure, est-ce que du coup, ça veut dire que Google Search va changer de forme, ou est-ce qu'il y aura deux Google, un Google basique qui va se contenter de nous donner des liens et un autre Google plus évolué qui va nous donner des informations rédigées et quitte à ce que ce modèle-là soit payant?
En fait, tu vas continuer avec un Google un peu poussé par l'IA pour le grand public, mais en fait, ce qu'ils accélèrent de dingue, c'est la partie entreprise, c'est-à-dire que Google, ils ont, je crois que le chiffre d'affaires, c'est 30 ou 40 milliards de dollars avec Google Cloud l'année dernière. Et l'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on multiplie à côté du moteur grand public que les gens connaissent, comment est-ce qu'on multiplie notre accélération avec les grandes entreprises. En fait, tu vois, c'est l'idée du partenariat qu'ils ont avec Orange, qu'ils ont annoncé aujourd'hui, mais ils ont annoncé Valeo, etc., où on va les aider avec leurs clients, on va aussi les aider en interne à avoir des dates de l'IA décentralisée pour utiliser les outils Google, mais en même temps à protéger les données sensibles. Ils essayent vraiment de draguer les grandes entreprises parce que le chiffre d'affaires, en fait, pour eux, il est là. Et tu vois, c'est la bascule qu'avait réussi Amazon en premier avant tout le monde, c'est de dire, oui, on a une vache à lait côté plateforme Amazon que tout le monde connaît, mais en fait, il y a toute une partie B2B que les gens au quotidien ne voient pas, mais qui est la nouvelle vache à lait de l'entreprise pour les 20 ans à venir.
Merci. Alors, tu l'as brièvement évoqué, hein, le partenariat entre Google et Orange. Alors, évidemment, ça a une on va dire, une résonance un peu particulière chez nous, puisque c'est l'opérateur français numéro 1. Ce qui est intéressant, c'est que, visiblement, l'intelligence artificielle générative pourrait améliorer les réseaux. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Tu as compris un petit peu les tenants, les aboutissants de ce partenariat entre Google et Orange?
Oui, j'ai compris. En fait, déjà, petit cocorico, il y a pas mal de boîtes françaises qui ont été mises en avant. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, il y a très peu de boîtes. C'est une keynote d'une heure, on doit faire toutes les annonces Google Cloud. Ça a parlé de Carrefour, ça a parlé d'Orange. Il faut savoir qu'ils ont annoncé aussi, parce qu'il y a toujours une partie physique derrière le cloud, ils ont beaucoup d'annonces, on parlait d'Action côté Etienne, mais ils ont annoncé aussi des nouveaux câbles sous-marins qui ont été construits. On a trois qui passent par la Polynésie française. Enfin, la France a été pas mal le sujet, c'est intéressant. Et donc, en fait, Orange, il y a toujours deux aspects quand Google va travailler avec les entreprises. Il y a comment tu fais un meilleur service pour tes clients et comment nous, on t'aide en interne. Donc en fait, il y a la question de comment est-ce que les clients Orange ils vont rapidement avoir de l'IA générative qui permet d'avoir un meilleur service client, des meilleurs conseils pour le forfait, etc. En même temps, comment dans les usines Orange, dans les locaux, etc., etc., on arrive à décentraliser un maximum l'IA générative pour que ça rende Orange le plus indépendant possible avec la meilleure performance possible. Et ça, c'est un modèle Orange, c'est très important pour eux parce que évidemment, ça fait une belle marque, c'est l'opérateur historique français, c'est rassurant et surtout, c'est un modèle qu'ils veulent dupliquer avec le plus d'entreprises possible derrière.
Fred.
Oui, on a entendu beaucoup de signatures avec des entreprises. Tu as cité Valeo, Carrefour, il y a aussi les Bayer sur des secteurs sur la santé, la radiologie. Ma question, c'est aussi, le but derrière, c'est quand même bon, d'utiliser de l'IA, mais c'est de ramener des clients vers le cloud. Et là, j'imagine que ils se lancent à l'assaut AWS, c'est entre 30 et 34% de part de marché. Azure, c'est entre 22 et 24%. Et Google, ils sont quand même, c'est à la moitié, hein, ils sont entre 12 et 14%. Donc là, il y a un gros enjeu aussi pour eux. Enfin, est-ce que ça, ils l'ont exprimé clairement. Voilà, c'est le but, c'est un peu comme Microsoft avec Azure, hein, c'est redonner encore plus de vigueur à leur offre cloud.
Ouais, il faut savoir que moi, chez Paddock, j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui étaient partis sur le cloud avec Amazon ou avec Microsoft et qui prennent ensuite Google sur la partie data. Évidemment, en fait, c'est entre guillemets une deuxième chance pour tous ceux qui veulent rentrer sur le marché du cloud aujourd'hui d'aller chercher des clients, parce qu'en fait même des clients qui sont déjà chez un autre concurrent, tu peux rentrer par la data, proposer des choses, et puis au moment où les contrats sont terminés, etc., dire attendez, sur la partie cloud on peut aussi créer un truc cool, ce qu'on a fait sur la data c'est pas mal. Donc évidemment, en fait, c'est une porte d'entrée incroyable pour Google, qui est troisième, c'est le troisième des gros hyperscalers, de re-rentrer dans des grands comptes, parce que historiquement ils étaient très très forts sur les startups scale-up, et là où ils sont très très bons, ils accélèrent depuis un an, deux ans, c'est la partie grand groupe, et ils veulent absolument profiter de l'accélération qui est offerte par leurs outils data qui sont excellents.
Google n'est que troisième. C'est vrai que il y a encore du chemin à parcourir pour rattraper le numéro 2 Microsoft, et tu disais le numéro 1 AWS, ouais, qui aujourd'hui est plutôt tranquille, on va dire.
Oui, au troisième trimestre, ils ont quand même perdu 3% de part de marché. Hein. Ouais. Et puis, je pense qu'il faudra regarder les premiers semestres, les 6 mois qui arrivent, pour voir comment Google a récupéré beaucoup de clients, j'imagine, via OpenAI. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, hein, bon, on était à l'AWS Summit il y a quelques jours, où ils ont sorti leur offre, là. Mais la stratégie AWS, elle est beaucoup moins claire, hein, que celle d'un Google aujourd'hui ou d'un Microsoft depuis 2-3 mois.
Merci beaucoup, Clément.
C'est importante, mais ouais, juste personne n'est serein sur ce marché. Hein. C'est la guerre.
Ouais, c'est la guerre, c'est ça.
Et donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que les faut investir parce que personne n'est serein.
Les places du podium pour échanger, à ton avis?
Sur les 3 à 4 ans, c'est possible. Tu sais, sur ce marché-là, ça va tellement vite. Mais moi, j'ai du mal à suivre tous les produits de nos prestataires, de nos partenaires. La Roche-Tarpeyenne est proche du Capitole, on va dire.
Merci beaucoup, Clément.
Elle est pas mal, celle-là. Je suis content. Ciao, François.
Elle est pas mal. Merci beaucoup. Profite bien du soleil ce grand rendez-vous Google. On voit, j'ai vu passer des enfants derrière avec des bouées, donc je pense qu'il y a une piscine qui est pas loin. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. Merci, Clément. Merci beaucoup. On va rester, tiens, dans l'actualité Google, avec une fonctionnalité que tu voulais nous présenter, Didier. C'est Fan My Phone, qui arrive sur Android, donc l'écosystème Google, bien sûr. C'est une nouveauté, et on a l'impression que Google veut rattraper le retard qu'ils avaient pris par rapport à Apple, qui a été au top pendant des années avec leur système de localisation de téléphone.
Ils veulent même aller beaucoup plus loin, et ils ont les moyens d'aller beaucoup plus loin, parce que Android, c'est quand même 3 milliards d'appareils qui se baladent dans le monde. Donc comparé à Apple, qui est beaucoup plus petit, ça veut dire un maillage absolument incroyable. Comment ça marche? Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin de connexion cellulaire, il n'y a pas besoin de GPS. C'est simplement, quand on a un smartphone à un endroit, les autres smartphones autour, grâce à des petits signaux Bluetooth, arrivent à détecter sa présence et peuvent le géolocaliser en envoyant eux-mêmes leurs infos à Google. Donc c'est un système qui est très intéressant pour retrouver son téléphone, mais aussi, comme le fait Apple avec ses AirTags, pour retrouver des objets, hein, la valise qu'on perd, les clés, la télécommande, toutes ces choses-là. Le chien qu'on veut suivre, ou même les enfants, on le met dans le cartable. Donc ça permet de géolocaliser très rapidement un objet ou une personne. Et ça veut dire que le champ des possibles est multiplié par 10, ouais,
c'est 100, exponentiel.
Voilà, par rapport à ce qu'a fait Apple. Apple a été pionnier, mais là, on passe carrément à une échelle supérieure.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accord entre Google et Apple pour que chacun puisse bénéficier de la technologie de l'autre, d'après ce que j'ai compris.
Alors,
c'est-à-dire que les AirTags pourront être détectés par des téléphones Android, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça ne marchait qu'avec le parc d'iPhone. Et là, les AirTags, maintenant, puisque visiblement Google et Apple se sont entendus, pourront être les AirTags d'Apple pourraient être détectés dans un environnement Android en fait, et c'est plutôt pas mal en fait.
Alors oui, mais ce qui est bien aussi, c'est que on imagine que les partenaires de Google historiques vont en profiter pour créer leur propre AirTag. Et là, ça veut dire aussi un nouveau marché qui va exploser.
Il y a et déjà des concurrences qui va s'intensifier.
Ouais, donc il y a déjà des grands noms comme Motorola ou d'autres qui ont dit qu'ils allaient participer à cette expérience, mais encore une fois, c'est une mini-révolution parce qu'on va arriver à un réseau de géolocalisation qu'on n'a jamais vu auparavant.
Bon, moi, c'est toujours ça qui m'étonne chez ces Américains, c'est leur côté pragmatique et en même temps concurrentiel. Pragmatique en se disant, avec Apple, on va partager ces infos pour finalement avoir cette localisation qui va servir à tout le monde, parce que Apple se dit finalement, je vais pas réserver ça à mes utilisateurs et les utilisateurs Android aussi. Et puis derrière, comme tu viens de le dire, il y a un nouveau marché autour des AirTags, donc ça va forcer tout le monde à innover. Et je trouve que là-dessus, moi, ça me fascine toujours cette ouverture. On a beaucoup appris des 30 ans, des années Microsoft, où on fermait tout et tout ça. Aujourd'hui, alors évidemment, il y a encore pas mal de choses fermées, mais où il y a parfois, ils se disent, tiens, là, on peut coopérer, et puis derrière, ça va ouvrir tellement de choses que...
J'ai l'impression que les relations se détendent un peu entre Apple et Google. Il y a donc cette coordination entre, les AirTags et leur système de localisation qui devient un peu universel, finalement, puisque ça marchera sur tous les téléphones. Il y a le RCS qui va arriver sur iPhone, qui est ce SMS, du futur augmenté.
Enfin, ils ont freiné des cas de fer pendant un bout de temps.
Oui, mais tu as remarqué que Apple a changé complètement de direction en disant, d'ici la fin de l'année, le RCS arrivera sur les iPhones.
Oui, mais c'est aussi Google. La pression du régulateur qui fait que pour des raisons de compatibilité.
Michel.
Oui, c'est aussi le cas dans l'IA, puisqu'on a entendu des discussions aussi entre Apple et Google sur Gemini potentiellement.
C'est vrai.
Pour intégrer.
C'est vrai.
Moi, je pense que.
Ça serait intéressant d'être en sous-main comme
non,
ça.
Non, mais Google, et de voir Google les n'a jamais été l'ennemi d'Apple. Apple a toujours utilisé Google sur les iPhones, sur Safari, le moteur de recherche par défaut.
Oui, bien sûr.
Ça prouve aussi que Apple est quand même en retard. En retard à plein d'endroits. Il est en retard sur l'IA. Là, on a parlé de 3 milliards de devices versus je ne sais pas combien de milliards de devices.
Oui, mais là, ils ne sont pas en retard sur la technologie. Ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas la taille critique par rapport à l'Android,
bien sûr. C'est la question du marché. Donc, Apple accumule quand même les retards dans plein de domaines. Je ne parle même pas du cloud, évidemment, parce que ce n'est pas vraiment leur cœur de...
Est-ce que ce retard n'est pas lié aussi à leur volonté d'avoir un écosystème fermé?
Possible.
Et comme il est fermé, tu te déconnectes un petit peu des innovations des autres.
C'est pour ça qu'il l'ouvre un peu, pour s'ouvrir justement d'autres innovations, d'autres potentiels.
On va voir comment ils vont réagir quand même dans les mois qui viennent, Apple. Ils viennent d'annoncer aussi que iOS 18, a priori, n'aurait pas d'IA à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à jour de Siri, alors qu'on l'attendait. On se disait, mais comment cette boîte peut être à ce point? Google est en retard de 6 mois par rapport à Microsoft et OpenAI. Mais Apple est en retard de plusieurs années, probablement. Ouais. Moi, je suis très inquiet quand même pour Apple.
Bon, on verra bien.
Une dernière. Étienne Braque l'a dit très rapidement, mais je pense que l'année 2024, ça va être quand même l'année... on a eu l'année Nvidia, mais là, dans les 12 prochains mois, je pense qu'on va regarder ARM
de
près, parce que là...
Il faudrait revenir sur le sujet, parce que c'est une boîte absolument incroyable.
Il y a les PC Microsoft qui arrivent avec de l'ARM dessus. Tu l'as dit, SoftBank, qui à un moment... Rappelons-nous, Nvidia... ARM, ça devait se fusionner. SoftBank, bon, c'est le régulateur britannique notamment qui a dit non. Et SoftBank, je pense, se dit, ah, finalement, c'est pas mal. Et je trouve que là, on commence vraiment à avoir plein de signaux plutôt faibles, que ça commence à devenir un signe fort du côté ARM. Et la suite de l'année 2024 risque d'être beaucoup en faveur toujours de Nvidia, mais
d'ARM aussi. On en reparlera peut-être demain dans le débrief. Malheureusement, Didier, tu ne seras pas là, sauf si tu souhaites revenir, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Tiens, il nous reste 2 minutes juste pour évoquer. C'est vrai qu'on parle beaucoup du progrès qu'apporte la technologie, mais la technologie aussi apporte une certaine dangerosité, une fragilité, et notamment auprès des enfants. On le voit avec cette étude Ipsos qui est sortie aujourd'hui et qui est effarante. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. En fait, les enfants aujourd'hui passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans que en lecture. C'est-à-dire que, en gros,
ils lisent. Il y a autre chose que lire.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est divertissement, c'est ça. Et on passe, d'1h20 de lecture par semaine à 5h de visionnage d'écran par jour. C'est incroyable.
Oui, c'est un vrai problème de culturel, social, parce que la lecture, c'est quand même, tout le monde le sait, hein, ça développe des facultés, ça a un côté très bénéfique
pour le
développement du cerveau. Voilà. Et puis surtout l'âge entre 16 et 19 ans, c'est l'âge où on découvre que la littérature ouvre d'énormes champs de possibles. C'est l'époque où on lit L'écume des jours, Bel Ami, tous ces bouquins-là qui forment un peu la structure, la personnalité de quelqu'un. Et moi, je suis sidéré parce que les copains de mes enfants avec qui je discutais l'autre jour, ils me disaient, nous, on lit des bouquins que quand on nous les demande à l'école, quoi. Mais en temps de loisir, non, ils lisent pas, ils regardent. Alors,
c'est-à-dire que le plaisir de visionner des écrans passe au-dessus du plaisir de lire.
Oui. Oui,
Michel.
On a une addiction aux écrans, on le sait bien maintenant. Les mécanismes qui sont mis en œuvre par ces acteurs créent de l'addiction. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que parent. Essayer de limiter le temps d'écran, essayer de remplacer aussi certains écrans par des... Moi, j'utilise aussi beaucoup avec ma fille les écrans e-ink, parce qu'ils n'ont pas cette capacité aussi de laisser éveiller. Ils sont moins connectés aussi, donc il y a moins d'applications.
Tu n'as pas de vidéo sur les écrans e-ink.
Tu n'as pas de vidéo, tu as plus de lecture,
on va dire.
Exactement, les écrans e-ink, c'est toujours des écrans, mais
se rapprochent un peu du papier.
Exactement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ce n'est que le début. Je vous rappelle qu'on rentre dans le monde du métavers, de l'IA. Il va falloir résister très fort pour nos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans.
Ce qui est intéressant, c'est que les filles sont moins touchées que les garçons.
Les filles sont moins touchées que les garçons. Ouais. Et ben voilà. On est les mauvais élèves en termes de lecture. Enfin, nous, voilà.
Non, mais c'est le rôle. Enfin, je pense qu'il y a un grand rôle des parents aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais
évidemment.
La facilité.
Mais difficile, difficile de se battre contre les écrans qui sont partout, tout le temps, dans la maison. Et c'est vrai que comment faire? Bon, enfin bref, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci en tous les cas à tous les trois. Merci Fred, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, Michel Lévy Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, qui est en train de nous préparer une belle édition pour le 11 juin prochain au Grand Rex. Tu auras l'occasion de revenir nous en parler, bien sûr.
Avec plaisir.
Et Didier Sens, journaliste, bien sûr. Didier, tu es le bienvenu, comme d'habitude, quand tu veux. Et vous restez avec nous, bientôt 21h, on attaque notre dernière demi-heure de Tech & Co. Restez là, parce qu'on a plein de belles choses qui vont arriver. On reviendra sur cette innovation incroyable du CEA. L'IRM la plus puissante au monde, elle est française, les amis. Et on la découvrira tout à l'heure. Et puis, tiens, le plan quantique de l'État, où en est-on? Eh bien, ça tombe bien, je recevrai tout à l'heure Nelly Abroug, qui est un peu le monsieur quantique du gouvernement. Il sera avec nous pour nous parler un petit peu de ce rapport d'État. Vous savez que durant le plan 2030 d'Emmanuel Macron, il y avait une partie qui était dédiée au quantique avec des investissements importants. On verra ce qui s'est passé depuis. Merci d'être là. Vous restez avec nous dans un instant, Léa Benaïm, pour le Tech Flash comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, dans un instant sur le plateau de Tech & Co, je reçois Anne-Isabelle Etienne, qui est la directrice de la recherche fondamentale au CEA. On va parler avec elle de cette IRM la plus puissante au monde. C'est une vraie prouesse technologique. On va tout vous raconter dans quelques instants, parce que bien évidemment ça aura des répercussions sur les radios et la santé de chacun d'entre nous dans quelques années. Mais auparavant, 21h02, il est temps de retrouver J'en perds la voix, le Tech Flash avec Léa Benahim. Bonsoir.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Prime Video sans publicité, eh ben c'est fini. Et ça arrive aujourd'hui en France avec maximum 3 minutes par heure. Et si vous ne voulez pas de pub, c'est possible, mais il faudra payer 2 euros de plus par mois. Ça fait 24 euros par an. Et c'est tout bénéfice pour le géant américain. Une étude de Bank of America estime que tout ça va rapporter 3,2 milliards de recettes publicitaires supplémentaires à Amazon par an et dans le monde. Avis aux Parisiens, passer les portiques du métro directement avec son iPhone, ça sera possible à partir de mai, juste à temps pour les Jeux Olympiques. Après des années de discussions avec Apple sur l'ouverture de la puce NFC, la fonctionnalité sera enfin disponible pour les utilisateurs d'iOS. Jusqu'à maintenant, les propriétaires d'iPhone peuvent uniquement recharger leur passe sur l'application, mais la carte Navigo reste obligatoire. Seuls les utilisateurs d'Android ont obtenu ce passe droit depuis octobre 2022. Sur le marché des PC, après 4 ans de perturbations, les ventes retrouvent leur niveau d'avant-crise. Près de 60 millions d'ordinateurs ont été livrés depuis le 1er janvier. Le top 3 des constructeurs, lui, ne bouge pas avec Lenovo, HP et Dell. Mais il y en a un qui tire son épingle du jeu, c'est Apple. Le lancement des MacBook Air équipés de la puce M3 a donné un coup de boost aux livraisons, plus 15% sur le premier trimestre 2024. Un marché qui a le vent en poupe avec l'arrivée des PC compatibles avec l'IA qui devrait encore plus stimuler la demande. Les habitants d'Amérique du Nord ont lâché leur téléphone hier pour assister à l'éclipse. Aux États-Unis, le nombre de requêtes sur Internet a chuté de 12% par rapport à la semaine dernière. Des chiffres encore plus flagrants dans les États situés sur la trajectoire de l'éclipse, comme le Vermont, l'Arkansas ou encore le New Hampshire. On observe une chute allant jusqu'à 60%. Et juste après le passage de la Lune entre la Terre et le Soleil, le trafic Internet a repris de plus belle avec des milliards de photos publiées sur les réseaux sociaux. Et pour finir, rendez-vous ce week-end pour un nouvel épisode de Tech & Co Business, une émission tournée à l'événement Raise qui se tenait à Paris. Frédéric Simotel était avec Patrick Pérez, le président de Qtai, et on écoute tout de suite un extrait.
Lorsque Qtai a été lancé, on a parlé d'un investissement de l'ordre de 300 millions d'euros. Et puis lorsqu'on regarde la presse américaine, alors on nous parle tout de suite, on part en milliards. Et pourtant on y croit quand même, hein, même nous, dans les médias, mais évidemment vous aussi. Qu'est-ce qui fait un peu, comment expliquer un peu ce décalage d'échelle aujourd'hui entre ces milliards d'un côté, ces millions de l'autre, et pourtant on sent que tout le monde est dans la même course?
Alors le décalage, il est peut-être... C'est une forme peut-être de perception. Il faut quand même revenir au début d'autres aventures aux États-Unis. Ça n'a pas tout de suite commencé avec des milliards. Ça, c'est la première chose. Donc, commencer avec des centaines de millions d'euros, comme certaines startups ou comme nous, par exemple, mm-hmm. c'est quand même des démarrages exceptionnels. Ça permet d'avoir accès à des infrastructures nécessaires. Par ailleurs, dans notre cas, comme l'enjeu, le but, l'objectif et la mission, c'est de faire de la recherche et pas de faire des produits, oui. Je pense qu'on a... On ne va pas servir à très très grande échelle des modèles, qui est aussi une des raisons pour lesquelles il faut des milliards dans certains cas. Donc, pour faire de la recherche, je pense qu'on est vraiment très 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 chanceux d'avoir accès à ces dotations.
Voilà, Tech & Co Business à retrouver ce week-end, bien évidemment, sur BFM Business, mais aussi sur la plateforme RMC BFM Play en replay. Il est 21h06, direction tout de suite le CEA.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Anne-Isabelle Etienvre avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Anne-Isabelle.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la recherche fondamentale au CEA. Et on va découvrir avec vous cette innovation incroyable dont vous avez annoncé les avancées il y a quelques jours à peine. Hein, et merci d'être avec nous pour la commenter en chair en os parce que c'est vraiment impressionnant. On va parler d'ISE. Qui est l'IRM la plus puissante au monde jamais conçue, qui est on va dire l'IRM de la démesure, qui pèse je sais pas combien de centaines de tonnes, qui fait 5 mètres de haut, je crois, enfin quelque chose de
dingue. C'est ça, tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu à quoi ça ressemble, et après on rentrera évidemment dans l'aspect technologique.
Alors en fait, c'est une IRM qui est née dans l'idée il y a quasiment 20 ans, avec l'objectif vraiment de repousser les limites de la connaissance que l'on avait à l'époque du cerveau. Et pour cela, il est important de pouvoir avoir un champ magnétique qui est vraiment le cœur de l'IRM, le plus élevé possible, pour pouvoir voir le cerveau avec une précision la plus la plus grande possible. Et donc la prouesse technologique, eh bien, c'est cela, c'est atteindre le champ le plus puissant au monde.
Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette innovation technologique à la télé, mais on comprend... En fait, l'IRM, c'est quelque chose de magique, quand même. C'est-à-dire qu'on arrive à voir l'intérieur du corps sans l'abîmer. C'est dingue. Et tout ça, c'est grâce au champ électromagnétique, c'est ça ?
Absolument.
Est-ce qu'on peut l'expliquer simplement comment ça marche ?
Alors, je vais essayer. Donc, l'IRM, effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est une façon de faire de l'imagerie de façon strictement non-invasive. Et donc, évidemment, c'est très précieux. Et en fait, on utilise le fait que notre corps est fait d'atomes et que donc, dans ces atomes, il y a des noyaux et que donc, avec un champ magnétique extérieur, qui est celui que génère l'IRM, eh bien, ces noyaux vont s'aligner sur ce champ magnétique et suivant la façon qu'ils vont avoir d'être excités par ce champ magnétique, eh bien, on arrive à avoir une reconstitution en trois dimensions de ce qu'on a à l'intérieur du corps.
Sans aucune conséquence pour la santé ?
Non, sans aucune conséquence pour la santé. C'est étudié de très très près, très soigneusement. Et pour cet IRM qui est donc à un très haut champ magnétique jamais atteint, naturellement, nous avons regardé extrêmement attentivement et avec un protocole très rigoureux tel que préconisé par nos autorités de santé, l'impact que pourraient avoir ces champs extrêmement intenses sur la santé et nos 20 volontaires sains, je vous rassure, vont très bien.
C'est bien, mais ça présage en fait un avenir radieux à cette technologie que vous avez mise en place, parce que les IRM, ça existe depuis des années, évidemment, c'est une technologie qui a révolutionné l'imagerie, qui est inoffensive, ce qui n'est pas le cas de la radio. Hein. La radio, bah, petit à petit, on prend des rayons, hein, en quelque sorte, donc ça a ses avantages. Ce qu'il y a d'incroyable, là, c'est la puissance, vous le disiez, on est à 11,7 Tesla, alors qu'une IRM traditionnelle, c'est entre 3 et 7, c'est ça ?
Dans les hôpitaux, c'est entre 1,5 et 3.
Ah, 1,5 et 3.
Oui, donc, traditionnellement.
Donc, on est là, vous êtes à 4 fois la puissance,
oui. Hein,
au maximum. Et donc, on arrive... En fait, on passe de la télé de cathodique qu'on avait à la télé 4K, quoi, finalement. Pour que je résume un petit peu le résultat de l'image que vous avez du cerveau.
Oui, on arrive, en fait, avec un temps d'acquisition extrêmement bref, en 4 minutes, on arrive à avoir des précisions sur le cerveau qui sont inégalées avec un temps d'acquisition aussi court. Et donc, c'est extrêmement prometteur, puisque ça permet d'imaginer, de pouvoir étudier le cerveau, son métabolisme, son fonctionnement pour l'apprentissage, mais aussi poser des diagnostics précoces et mieux comprendre un certain nombre de maladies extrêmement impactantes pour la société.
Parce que d'après ce que j'ai compris, je me suis un petit peu renseigné, visiblement, on pourrait avoir cette qualité d'image avec des IRM traditionnels, moins puissants, mais il faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et comme il ne faut surtout pas bouger, ou alors bouger le moins possible pour avoir des résultats très précis, c'est quasiment impossible.
Absolument, vous avez parfaitement bien compris. On peut, avec un temps infini, ou un temps en tout cas important, plusieurs
parce
heures...
Parce qu'un temps infini, ça risque d'être compliqué.
Plusieurs heures, on peut arriver à atteindre des niveaux de précision semblables ou similaires, mais c'est assez théorique, parce que comme vous le disiez très justement, pour cela, il faudrait avoir une stricte immobilité pendant plusieurs heures, ce qui est évidemment extrêmement difficile, et le moindre mouvement brouille l'image. Donc on n'arriverait pas à avoir une image d'une telle précision, même avec un temps très long.
Alors que 4 minutes, c'est jouable.
4 minutes, c'est tout à fait jouable, et on l'a vu avec nos 20 volontaires sains.
Alors, le résultat, on l'a vu, hein, ce sont des images du cerveau inédites, d'une précision incroyable. Encore une analogie, c'est un peu le Hubble, vous savez,
pour l'univers, oui.
Voilà, c'est ça, hein, cet appareil qui permettait de voir l'espace comme jamais, et avec une précision incroyable. Médicalement, c'est une vraie révolution qui arrive, là.
Alors, on est vraiment à la fois, c'est un aboutissement aujourd'hui, puisque donc on a la certitude que notre appareil fonctionne aussi bien qu'on l'avait rêvé il y a un certain temps. Mais c'est aussi le début de quelque chose, puisque maintenant commence vraiment la recherche en neurosciences avec cet appareil dont on sait qu'il atteint les caractéristiques que l'on avait rêvées. Et donc, on va pouvoir maintenant vraiment démarrer la recherche avec l'ensemble de nos partenaires académiques, mais également dans le milieu hospitalier, pour vraiment mieux comprendre le cerveau sous toutes ses formes.
Est-ce que cet appareil va pouvoir soigner les gens ? Quand je dis soigner, c'est détecter des maladies parce qu'ils en ont besoin. Est-ce qu'il va être mis à la disposition du public ?
Alors dans un premier temps, là vraiment dans les prochains mois ou les toutes prochaines années, on va vraiment continuer à démarrer ce programme de recherche pour vraiment caractériser son fonctionnement, mettre au point toutes les méthodes d'analyse des images que l'on prend avec l'IRM.
Il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça ?
Encore un an, encore D'accord. une bonne année pour vraiment bien mettre au point l'ensemble de la prise d'image, pour okay. vraiment avoir des images aussi précises et tirer le maximum du potentiel de cette IRM un petit peu hors norme.
Ça veut dire que les images que vous nous montrez là, dans un an, elles seront encore meilleures ?
On peut espérer qu'elles soient encore meilleures. On va okay. vraiment essayer d'en tirer vraiment le maximum par les techniques d'imagerie. Également en utilisant l'IA pour essayer aussi de tirer encore le maximum de ces images avec un temps d'acquisition réduit sans dégrader la qualité de l'image. Et puis quand on aura fait tout cela, donc vraiment on aura optimisé la prise d'image, et bien ensuite on pourra passer à une seconde étape avec de nouveaux protocoles en lien avec les autorités de santé pour en effet pouvoir étudier aussi des pathologies.
J'imagine que vous travaillez de concert avec les neurochirurgiens, ils doivent être et abasourdi par cette innovation, non ? Parce que franchement, pour eux, ça va changer plein de choses.
Et oui, il y a un intérêt évidemment très fort et on est très heureux de travailler évidemment en lien étroit avec les établissements de santé. C'est déjà le cas aujourd'hui dans notre laboratoire avec les IRM déjà en fonctionnement et ça va être encore plus vrai avec cette IRM-là. Et c'est évidemment extrêmement important qu'on ait ce continuum entre la recherche très amont et puis vraiment la recherche clinique dans les hôpitaux, puisque c'est eux aussi qui expriment le besoin et qui nous guide aussi dans la recherche que l'on fait.
Alors, évidemment, à chaque fois que vous parlez de cette IRM, vous focalisez sur le cerveau, alors que l'IRM scanne notre corps entier. Ça a un sens d'imaginer cette IRM ultra puissante pour d'autres parties de notre corps ?
Alors, cette IRM...
Parce que le cerveau, évidemment, c'est le plus spectaculaire, c'est l'organe le plus complexe du corps humain, mais est-ce que ça aurait un intérêt de faire une IRM avec autant de précision pour le foie, les intestins, l'estomac, enfin je sais pas.
Alors cette IRM potentiellement est conçue pour être corps entier, donc l'intégralité du corps D'accord. pourrait rentrer dans cette IRM, mais il a vraiment été conçu pour les neurosciences et pour le cerveau. Donc l'intégralité des appareils de cette IRM est vraiment aujourd'hui pour l'étude du cerveau.
Petite question concernant la puissance donc démesurée de cet appareil. Est-ce que c'est compliqué à fabriquer par rapport à une IRM traditionnelle ? Et deuxièmement, en termes d'énergie, est-ce que ça consomme énormément d'énergie ? Parce qu'on parle de Tesla, et dès qu'on évoque Tesla, c'est une unité de mesure qui est liée à l'électricité. Qu'est-ce que ça donne, en fait, cet appareil ?
Alors, bon, pourquoi ça a été une prouesse technologique ? C'est parce que, donc, pour atteindre ces champs magnétiques extrêmement intenses, avec des contraintes en termes d'homogénéité du champ sur l'intégralité de l'appareil, eh bien, il a fallu mobiliser une technologie, celle des aimants supraconducteurs, qui est développé aussi au sein du CEA pour d'autres disciplines comme la physique des particules ou bien la fusion pour l'énergie. Et donc cette technologie des aimants supraconducteurs, elle est très spécifique et arriver à construire un IRM avec cette technologie-là était réellement une prouesse que l'on a pu réaliser grâce à ce savoir-faire et grâce à un partenariat industriel au long cours avec une industrie, Alstom en l'occurrence, qui savait vraiment réaliser ce type d'instrumentation.
En termes de consommation énergétique ?
En termes de consommation énergétique. Donc, c'est un aimant supraconducteur. Et donc, ça nécessite l'utilisation donc, de la supraconductivité et donc la cryogénie. Et donc, la consommation électrique, c'est vraiment celle de la cryogénie. Ensuite, on est extrêmement vigilant à cela. Et donc, la cryogénie repose sur l'utilisation d'hélium. Et donc, on a fait en sorte que l'hélium soit utilisé une fois pour toutes et reste en circuit fermé.
D'accord.
Et donc, tout au long de la vie de l'aimant.
Très bien. Alors, quand on tout à l'heure, on a évoqué brièvement les dimensions hors normes de cet appareil. Rappelez-nous quelques chiffres. Hein.
Alors, 132 tonnes, 5 mètres de long, 5 mètres de large.
Est-ce qu'on pourrait miniaturiser tout ça, à votre avis, dans les années qui viennent ? Alors, pour qu'après, ça puisse équiper les hôpitaux dans... quelques années. Est-ce que vous avez déjà une idée, vous projetez sur une sortie commerciale, en tout cas une multiplication de ce type d'appareil?
Alors, comme la recherche s'inscrit toujours dans un temps long, on réfléchit déjà à la prochaine génération d'aimants de ce style. Et donc, on a un programme de recherche assez ambitieux qui vient d'être lancé et qui consiste à mettre au point des aimants supraconducteurs avec de nouveaux matériaux qu'on appelle à haute température critique et qui devraient permettre ces matériaux d'atteindre en fait des champs magnétiques au moins aussi importants voire plus élevés à des températures comme leur nom l'indique plus faciles à mettre en place et ensuite
à maîtriser
dans le temps. Et donc, ça pourrait permettre ce type de matériaux supraconducteurs, s'ils sont vraiment mis au point à une échelle quasi industrielle, de miniaturiser en effet ce type d'IRM, voire même à terme d'atteindre des champs encore plus puissants.
Les champs encore plus puissants, ça aurait un intérêt de doubler la puissance. Aujourd'hui, vous arrivez donc à ce record de 11,7 Tesla. Demain, on monte à 25, 30. Ça aurait un intérêt médical, encore une fois, à votre avis?
Alors, je pense qu'il faut déjà, évidemment, regarder ce qu'on obtient à 11,7 Tesla avant de vous répondre, bien sûr, pour voir. On aborde vraiment un domaine dans les neurosciences.
Oui, inédit.
Inédit. Donc, je pense qu'il faut vraiment déjà arriver à exploiter pleinement ce potentiel scientifique pour voir vraiment quel est le champ magnétique suivant qui serait vraiment intéressant dans le domaine des neurosciences. Je sais que de par le monde, donc il n'y a pas d'autres IRM à 11,7 Tesla, mais il y a quelques projets d'IRM à 14 Tesla.
Merci beaucoup Anne-Isabelle Etienvre. Merci d'être passée par le plateau de Tech&Co pour nous expliquer en détail en fait cette innovation 100% française, cocorico, ça fait plaisir. Cette IRM, donc la plus puissante au monde, on dit un ou une?
Comme vous voulez.
Hein, on peut choisir, les deux sont valables. Depuis tout à l'heure, je me posais la question. Je me disais une parce que c'est imagerie, donc c'est plutôt une imagerie. Mais
c'est
bon.
Plutôt une imagerie.
Merci beaucoup en tout cas d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et direction tout de suite la rédaction de Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Salomé Ferrari nous a rejoint. Bonsoir Salomé.
Bonsoir François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Amazon Prime Video. Et ça y est, depuis ce matin, la plateforme de streaming d'Amazon s'est mise à la pub.
Et oui, bon bah Netflix nous avait déjà fait le coup il y a quelques années, Disney Plus aussi, mais cette fois-ci c'est vraiment au tour d'Amazon Prime de se lancer sur le marché de la pub. Alors c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps, hein. On avait été prévenus, il y avait eu pas mal d'annonces, les Américains ont déjà eu la pub d'ailleurs il y a quelques mois, mais depuis ce matin bah, c'est notre tour. Alors je sais pas si toi tu vas sur Amazon Prime.
Mais oui, j'y vais, malheureusement.
Ben voilà, bah si si tu lances ta série préférée, t'auras le déplaisir de trouver donc des pubs, environ 2 à 3 minutes 30 de pubs.
T'as testé déjà ou pas?
Alors non, moi j'avoue, j'ai pas Amazon Prime. Ah. Je vole Amazon Prime.
Je te donnerai mes codes, chute.
Cool, c'est gentil. Mais en tout cas, si toi tu veux pas de pub, tu peux payer.
Et ça coûte combien de supprimer les pubs sur Amazon Prime alors?
Alors, il y a beaucoup d'abonnements, c'est un petit peu compliqué à Amazon Prime, mais dans tous les cas, en fait, le calcul est simple, il te suffit de rajouter 2 euros à ton abonnement. Donc par exemple, si tu payes mensuellement, ton abonnement c'était 6 euros, et là il va passer à 8 euros. Donc ça fait à peu près une augmentation de 24 euros par an. Mais il y a un petit hack, c'est qu'il te restera quand même les pubs donc, sur les chaînes complémentaires d'Amazon comme HBO, ou quand tu regardes des lives. Alors 24 euros, c'est quand même un budget hein,
ouais,
à
un
l'année.
Budget, ouais. Bon, c'est à l'année, mais.
Mais ça reste quand même moins cher hein, que Disney+. Disney+, c'est à peu près 3 euros et c'est bien moins cher que Netflix parce qu'eux, ils sont carrément à 7,50 euros pour supprimer les pubs. Donc bon.
Oui, bon, après, c'est un choix. Hein.
Exactement.
On s'y fait la pub. Merci beaucoup, Salomé. Salomé
Ferrari,
donc journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, on va parler quantique avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Neil Abrouk nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Neil.
Bonsoir.
Vous êtes coordinateur de la stratégie nationale quantique. Vous êtes un peu le monsieur quantique du gouvernement, hein, voilà, pour, on va dire, schématiser. Et c'est intéressant de vous avoir sur le plateau ce soir, puisque, mine de rien, le plan France 2030 a été lancé il y a 3 ans. Et on se souvient du discours d'Emmanuel Macron. Il y avait le quantique qui avait eu une grande place avec beaucoup d'argent. On parle plus d'un milliard d'euros d'investis. On trouve intéressant de faire un petit point à date. Voilà, comment se déroule ce plan quantique de France 2030, Neil?
Alors effectivement, le président de la République a lancé cette stratégie nationale quantique en 2021 sur un lieu emblématique, le plateau de Saclay, où il se trouve beaucoup de laboratoires et beaucoup de jeunes pousses sont issues de cet écosystème-là.
Le terreau quantique est là-bas.
Un des terreaux, il y en a d'autres, sur Paris, sur Bordeaux, sur Grenoble, partout sur le territoire.
C'est en Île-de-France, bien sûr. Hein.
Exactement. Et 3 ans après le lancement de cette stratégie nationale quantique, beaucoup de choses ont évolué. L'écosystème a mûri. On a plus de start-up. Les start-up sont également plus matures. Donc aujourd'hui, un acteur comme Pascal, par exemple, c'est presque une ETI. Ils sont plus de 200 salariés.
C'est une vraie réussite.
C'est une réussite, mais les autres start-up ne sont pas...
Ils ont passé un bel accord avec OVH Cloud hein, récemment. D'ailleurs, Michel Paulin et le cofondateur de Candela était venu sur le plateau.
Exactement. Donc Candela a mis le premier ordinateur sur le cloud d'OVH. Alice and Bob a eu des résultats scientifiques, technologiques phénoménaux. En 2022, on commençait à se poser la question partout dans le monde si le quantique, si le calcul quantique aboutira un jour ou pas. 2023 était un miracle technologique scientifique. 3 résultats scientifiques, un par Alice and Bob, un par Google, un par Amazon. Et ça a redonné un nouveau souffle à tout cet écosystème. Ce qu'on considérait il y a 2 ans
comme une incertitude, advenir. Voilà, oui.
Exactement.
Là, maintenant, on est sûr que le quantique fonctionne. En tout cas, sur le papier, il y a un chemin à tracer, c'est ça ?
C'est exactement ça. Il y a un chemin et il est plus précis. Il y a 2 ans, on considérait que les ordinateurs universels, quantiques universels, ceux qui résoudraient les problèmes les plus difficiles, la fabrication de nouveaux médicaments, la résolution de problématiques d'optimisation, de logistique très importants, on considérait qu'ils viendraient dans 10 ans, voire jamais. Avec ces résultats scientifiques qu'on a vus l'année dernière, beaucoup d'indices nous indiquent qu'avant la fin de la décennie, on aura des machines utiles. Et sur certaines technologies, on aura des résultats utiles, y compris dans les 2-3 prochaines années. L'année dernière, Pascal, avec le Crédit Agricole, ont démontré que le calcul quantique fait aussi bien qu'avec les data centers qu'il y a dans les banques. Donc, à la prochaine génération, à la juste prochaine génération, il y aura un avantage à utiliser ce type de machine.
Quels sont les autres secteurs qui vont être bouleversés en termes de puissance de calcul grâce au quantique, Neil ? On parle de la médecine, notamment, de la recherche médicale ?
Tous les domaines qui nécessitent du calcul. La médecine en est un exemple. Nous avons visité avec notre secrétaire générale adjointe la semaine dernière une des pépites soutenues par France 2030, qui est la société Qubit Pharmaceuticals.
Donc, on une a recherche sur le plateau de Tech & Co.
Une recherche d'une vingtaine d'années qui a abouti à un outil logiciel tellement perfectionné. Donc aujourd'hui, il a été utilisé par beaucoup de scientifiques, beaucoup de pharma dans le monde. Ils identifient la manière des nouvelles molécules qui vont s'accrocher à certaines protéines donc, qui véhiculent des maladies. Ça peut être des cancers, ça peut être des virus, ça peut être plein de choses. Ils identifient des candidats médicaments et accélèrent la recherche médicale dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le candidat, on va beaucoup plus rapidement vers l'essai in vitro, puis l'essai clinique. Donc ça va accélérer de manière phénoménale la recherche médicale. Ça va accélérer aussi la recherche de signaux faibles, typiquement la recherche de fraude bancaire, de fraude fiscale. Il y a des travaux qui sont faits avec la société Candela et certains acteurs de la finance sur ces sujets-là. Plusieurs secteurs, le secteur des matériaux de manière générale, ce qui s'applique à la santé que je citais donc, dans le cadre de Qubit Pharmaceuticals, peut s'appliquer à toutes les sortes de matériaux. Toutes sortes de matériaux peuvent être accélérés par le calcul quantique.
Ouais, c'est vertigineux d'ailleurs hein, ce qu'on attend hein, de cette nouvelle technologie. Avec, je le disais, la stratégie quantique du gouvernement qui est assez impressionnante. Hein, plus €1 milliard d'investissement public, dont France 2030, 80 projets soutenus. On parle de qubit aussi, c'est important parce que c'est l'unité de mesure de puissance, c'est ça, de calcul, le qubit ?
C'est une unité de mesure de la puissance du calcul. Alors, elle ne veut pas toujours dire la même chose en fonction de la technologie.
D'accord.
Mais on sent les choses, c'est comme le bit dans le monde de l'informatique classique. Le qubit est l'unité de mesure ou l'unité de mémoire pour les ordinateurs quantiques. C'est là où, c'est en utilisant ces qubits, en les faisant interagir les uns avec les autres, qu'on construit des algorithmes utiles pour le calcul.
Malgré tout, c'est une unité de mesure, hein, un peu un étalon, finalement, pour voir la progression technologique de cette innovation. Aujourd'hui, on est à 350 qubits. On estime que d'ici 2 ans, on sera à 2000 qubits. Ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'après, ça va être exponentiel, j'imagine.
Alors, effectivement, aujourd'hui, une société comme à nouveau Pascal a démontré la capacité de manipuler 350 qubits. Ils ont l'ambition d'aller beaucoup plus loin que cela, donc 2000 qubits, voire plus. Donc, ce sont des machines qu'on appelle analogiques. C'est une manière de faire le calcul qui fait un calcul utile. Mais il y a une autre génération, la future génération d'ordinateurs quantiques, ceux qui auront des qubits dits parfaits ou corrigés. Donc, ceux qui se comportent vraiment de la manière dont les modèles mathématiques le prédisent. Ceux-là, on a eu les premières preuves de concept l'année dernière. Le premier qubit logique, on l'attend dès la prochaine année. Et avec 100 qubits logiques d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose qu'aucun supercalculateur dans le monde ne pourra égaler.
Merci beaucoup, Naïl, d'être passé par le plateau de Tech & Co, coordinateur de la stratégie nationale quantique, sujet passionnant, bien sûr. Vous le portez depuis 3 ans déjà. Merci beaucoup. Merci. Et ce Tech & Co, la quotidienne, est terminée. Merci de nous avoir suivis. Demain, mercredi, nous serons là, bien sûr, dès 20h, en direct à la radio, à la télé. Belle soirée d'ici là.